bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur le Magic Mirror 3 pour cette table ronde autour des belles découvertes. Et nous avons quatre beaux exemples d'auteurs et de romans à vous présenter. Mais on va commencer, puisque c'est l'intitulé de notre table ronde, par vous présenter les auteurs. C'est plutôt eux qui vont présenter un peu leur parcours pour que vous les découvriez, puisque nous avons que des bisous pour cette édition 2017, que des auteurs qui nous arrivent pour la première fois. Même si, on va commencer avec Catherine Valente, même si Catherine était déjà là par procuration l'année dernière, puisqu'elle a été prix imaginal du roman jeunesse pour le roman qui est ici. La fille qui navigua autour de Féerie sur un bateau construit de ses propres mains, qui est le premier tome d'une série, je crois qu'il y a 5 tomes au total. Mais alors, Catherine, quand j'ai vu l'intitulé de cette table ronde, je suis allé me renseigner un petit peu, je suis allé voir sur Wikipédia, sur d'autres sources, mais finalement je suis allé voir sur votre site. Et je me suis rendu compte que vous aviez quand même un parcours assez. Je me demandais si on voulait le faire raconter, si on va pas faire la table ronde juste sur ça en fait, tellement vous avez fait de choses. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit condensé et nous dire d'où vous venez, qui vous êtes?
This one? My path. I have written a large number of things that very few of them would be called typical, though I would say what is a typical novel before we talk about atypical novels. But I certainly started out very young. My first novel came out when I was 24. I wrote it when I was 22. My voice was very different than what was out at the time, and I think that was part of how I began to have a name, because you couldn't find what I was writing anywhere else.
Alors d'accord, mais je vais revenir sur mon parcours. Oui, c'est vrai que j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages qu'on pourrait difficilement qualifier de classiques ou typiques, puisqu'on parle de romans atypiques ici. Et donc j'ai commencé à écrire vraiment, vraiment très, 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 très jeune. Ma première publication, c'était quand j'avais 24 ans, et j'ai écrit cet ouvrage quand j'avais 22 ans. Et je crois que ce que j'avais produit, c'était une voix qui était assez différente de ce qui était dans l'air du temps à ce moment-là. Et je crois que c'est un peu ça qui a contribué, qui m'a aidé à me faire un nom.
I'm actually not sure how many books it is. I think it's in the upper 20s. As I went through these books and the whole long publication process, which we don't need to get into here, I think that sort of my path has been to balance the essential weirdness that is so important to me with something more accessible to a wider audience, and to sort of hone in on that combination with each book, and to try to stand on both sides of that fence.
Oui, alors je ne sais plus combien de livres j'ai à mon actif. En tout cas, je sais que c'est dans à peu près la vingtaine, un peu plus de 20. Quoi. Et donc, je ne vais pas revenir sur tout le processus, le long processus pour essayer à être publié. On n'a pas besoin de reparler de ça. Mais je dirais que mon parcours, en fait, ça a été tout un jeu d'équilibrisme entre essayer de tempérer cette bizarrerie, cette étrangeté qui m'est si chère, avec des éléments qui soient un peu plus accessibles au grand public, je dirais. Et essayer de combiner les deux, et en essayant de rester un petit peu à cheval sur cette barrière entre ce qui est atypique et ce qui est plus accessible.
Marie-Laure de Vacancin, à votre tour, d'où venez-vous? On vous découvre avec le premier tome du projet Starpoint. On a encore une fille, mais elle a des cheveux rouges. Elle a a priori rien construit de ses mains, contrairement au livre de Catherine, mais on en reparlera évidemment de cette demoiselle et des personnages qui l'entourent. Mais vous, alors, comment êtes-vous arrivé à ce roman? Parce que vous aussi, vous avez fait plein de choses avant.
Alors, ça marche, oui. Vous parlez de plein de choses en dehors de la littérature,
ou... Qu'est-ce qui a pu vous amener à écrire aussi
Alors,
qui a pu m'amener à écrire. J'ai toujours écrit. Depuis que je suis petite, je pense que plein de gens écrivent des poèmes, des romans, enfin, ont connu cette expérience de dessiner, d'écrire. Après, pour passer à quelque chose de plus professionnel, chacun a son propre parcours. Moi, je me suis perdue, enfin, c'est pas que je me suis perdue, c'est que j'ai exploré plein de voies. Désolée, je fais comme ça. J'ai commencé par être comédienne, puis j'ai monté les restaurants. On pourrait dire que ça n'a rien à voir, mais à chaque fois, c'est construire des univers. Hein. Être comédienne, c'est construire un rôle, s'imaginer, construire toute la vie du personnage. Un restaurant, c'est construire des univers aussi. C'est comment faire en sorte que les gens soient bien pendant 2 heures. Et un livre, pour moi, bah, c'est construire un univers romanesque, surtout ce genre de livre où on parle d'un monde parallèle, où il faut tout reconstruire, l'espace, le temps, comment on laisse les gens, comment ils vivent, comment ils voyagent, etc. Donc, en fait, la physique est différente, la géographie est différente, il faut tout reconstruire. Et c'est un peu la même démarche quand on construit un rôle, c'est un peu la même démarche quand on construit un restaurant. Ça a l'air tiré par les cheveux comme ça, mais en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, en fait, en allant visiter différents métiers, différentes activités, ça m'a conduit à réussir à écrire ce livre, donc qui parle de deux lycéens qui rentrent en seconde et qui sont déstabilisés par l'arrivée d'une nouvelle élève qui les embarque dans un monde parallèle.
Bon, pareil, évidemment. Grégory Darozin, cette fois-ci, on va passer à la littérature. Parce qu'il y en a toujours des étiquettes à tout, mais c'est comme ça, hein, littérature pour les adultes, on peut dire ça ainsi. Avec Sénéchal, Chien Nemos, les très belles découvertes en fantasy de ce début d'année. Un même exercice, Grégory, de Novebou.
Je ne sais pas moi-même, Julien. Non, je dirais que j'arrive d'une longue errance. Je crois que je n'ai jamais réussi à me fixer sur quoi que ce soit. Parce que voilà, j'ai commencé mes études, j'ai fait alors, une première année de langues étrangères appliquées. Ça ne m'a pas plu. Je suis passé en licence de géologie. J'ai poursuivi un temps. J'ai enchaîné sur un master d'hydrogéologie. Ça ne m'a pas plu. Au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas quand même. Je suis parti. Je suis arrivé caissier dans une supérette. J'ai fait cool pendant 2 ans. Au chômage, j'ai écrit un roman parce que je savais pas quoi faire de mon chômage. Et ensuite,
j'avais pas pensé à ce genre.
Et oui, il faut essayer de. J'arrivais pas à trouver de travail, donc j'ai dit fais quelque chose de constructif, donc j'ai écrit un roman. Et maintenant, je suis surveillant dans un collège, donc on va dire que je vais là où les portes s'ouvrent et je vois ce que je peux en faire.
On expliquera ensuite pourquoi. Non seulement on le voit. Atypique forcément, mais également on expliquera pourquoi Sénéchal est un roman atypique, un premier tome, on va le dire aussi, parce que c'est pas indiqué très clairement sur la couverture, mais c'est une trilogie, c'est ça?
Oui, c'est une trilogie.
Et on expliquera en quoi cette trilogie est quand même assez atypique par rapport à ce qu'on peut lire actuellement en fantasy, que ce soit chez les Français, voire chez les Anglo-Saxons. Et puis j'ai gardé Sébastien pour la fin, mais je vais expliquer pourquoi. Sébastien Vermanotte, quand je suis venu vous voir hier en vous disant alors, voilà, on va faire le parcours quand même au début et on va rien continuer. Moi, j'ai rien à dire. Alors, vas-y quand même, il va falloir le faire. Je nous dévoue, Sébastien.
Alors, du coup, en écoutant les. Je suis content de passer mon avis, parce que comme ça, ça m'a laissé le temps de réfléchir.
Je vais sur ma charte à deux après.
Voilà. Donc, effectivement, comme mes camarades, en fait, j'ai pensé à faire d'autres choses avant d'écrire un roman. Quand j'étais adolescent, j'avais un groupe de musique. Et donc on faisait des reprises et on essayait d'écrire nos propres chansons et du coup c'est moi qui écrivais les paroles des textes des chansons que l'on interprétait. Donc j'ai commencé par écrire donc, des histoires courtes sous forme de chansons. Après j'ai gribouillé des idées de choses que j'aimerais bien lire et que je ne trouvais pas. Et j'ai fait différents métiers aussi. Sans savoir en fait où je voulais aller. Et puis, il y a quelques années, je suis devenu prof, un peu en me disant il faudrait que j'essaie de trouver un métier dans lequel j'ai envie de rester plus de 2 ans. Donc, du coup, j'ai passé un concours et là, en fait, je me suis dit ok, je l'ai eu, donc je vais rester un peu plus longtemps. Bon, ça me plaît, hein, ça va. Et du coup, j'avais écrit une nouvelle, parce que je n'étais jamais lancé dans l'aventure d'écrire un roman, donc c'est parce que en fait, fait, je commençais à écrire et arrivé à peu près à la moitié, je jetais la poubelle en disant ça ne me plaît pas. Et j'avais écrit une nouvelle donc, pour une amie qui voulait sortir un marathon, donc un roman illustré, donc dans des illustrations et des nouvelles qui allaient avec les illustrations. Et j'ai écrit quelque chose, parce que c'était court, ça me plaisait, et ça allait arriver rapidement. Et en fait, il n'a pas été retenu. Donc j'avais travaillé tous les matins, et puis un jour, j'avais oublié un livre à prendre dans le métro, et j'avais une quarantaine de minutes de transport en commun. Et sur mon portable, en fait, j'avais accès à ma Dropbox dans laquelle j'avais enregistré des fichiers, dont celui-ci, et là, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas essayer de rajouter des choses ici et là? Et finalement, j'ai écrit un roman comme ça dans le métro. En fait, il y a mon parcours. Et voilà.
Alors, j'ai une question piège quand même.
Oui.
Parce que là, celui-là, moi, j'ai le bâton de cèdre.
Oui.
On dit ça en
rond. Oui, comme ça.
Oui. Je passe en Suède.
Oui.
Vous vous appelez Bernadotte.
Oui.
C'est le nom de la famille régnante, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Il y a un lien particulier. C'était la question piège. N'entre pas dans les détails, mais voilà. C'était le questionnement directeur que je suis parfois et qui s'insinue un peu partout. Patrick Valentin, rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons des livres et en particulier de ces romans atypiques et donc de ce premier volume de la série. Je crois qu'il y a 5 tomes au total dans la série autour de Fanny. Alors là, c'est pareil, c'est peut-être une question piège. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça parle? Parce que c'est tellement foisonnant et particulier que je n'ose pas m'aventurer à ça.
You know, there are a few of my books where I have to say it's kind of hard to explain, which is not the greatest thing for marketing. But on one level, it's a simple portal fantasy. It's a young girl named September who lives in our world, and she's spirited away by the Green Wind to a place called Fairyland, which is ruled over by the wicked Marquess. And she makes friends, magical friends, one of whom is a half wyvern, half library in Aetherel. One of them is a Marid, which is like a genie, but water-based, named Saturday, and they fight the evil queen. But kind of the whole point of the book is to comment on and sort of make fun of classic children's literature like Peter Pan and Narnia and Alice in Wonderland and things like that.
Vous savez, c'est vrai que j'ai plusieurs romans comme ça, pour lesquels, quand on me demande justement de donner le thème, la première réponse qui vient, c'est de dire que oui, c'est un petit peu difficile à définir, bon, ce qui n'est vraiment pas terrible au niveau marketing, hein, j'en conviens. Mais bon, en fait, l'histoire de Féerie, la série, c'est la fantaisie, en fait. Hein, voilà, c'est cette espèce d'entrée, de porte d'entrée, par la fantaisie. Donc on y suit une jeune fille qui s'appelle Septembre et qui se fait donc enlever par le vent vert qui va donc la kidnapper et l'amener dans ce monde parallèle qui s'appelle donc Féerie et qui est gouverné par la méchante marquise. Et donc là-bas, Septembre rencontre, elle se fait plusieurs amis, dont un personnage assez curieux, qui est une sorte de dragon qui est un hybride entre un dragon, enfin un vouivre, et une bibliothèque en fait. Son père était une bibliothèque, donc il s'appelle le Vouivriothèque. Notre ami qu'elle se fait, c'est un Marid, qui est une sorte de génie, mais un génie aquatique. Et puis elle rencontre aussi Saturday, donc samedi. Et tous ensemble, ils vont justement se liguer pour combattre cette méchante monarque. Mais en fait, donc, l'idée vraiment sous-jacente, c'était justement de un petit peu me moquer de toute cette littérature jeunesse un peu classique, traditionnelle, du genre Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles ou Narnia.
Magicien d'Oz et pas mal d'autres contes.
just about to talk about The Wizard of Oz. It's one of the things that was most important to me, one of the things that I wanted to do was to create a book where a girl was taken to a magical world and didn't immediately reject it. Because the minute that Dorothy arrives in Oz, the first thing she wants is to go home to her terrible life in Kansas during the Depression, where she lives on a pig farm and her parents are dead. And she looks at this wonderful world and immediately says, no, I would rather have my awful life. And that, as a child, never made any sense to me. If I had found a door to a magical kingdom when I was a child, I would have been gone so fast. And I wanted to create a character that wanted to have an adventure. Because in some sense, all of these magical worlds stand in for adulthood. They're full of ideas about politics and money and sex that aren't really understood by the protagonist, but clearly have power. And we see these girls over and over again reject that world, and I wanted to create one that embraced it.
Oui, mais justement, j'allais enchaîner sur le Magicien d'Oz. Parce que quelque chose qui vraiment me tenait à cœur quand j'ai écrit cette série, je voulais vraiment créer des livres dans lesquels justement des enfants qui se retrouveraient comme ça parachutés dans un monde magique n'auraient pas ce réflexe qu'on voit justement dans tous les autres titres classiques dont on a parlé avant, et justement dans Le Magicien d'Oz, ce premier réflexe c'est le rejet, c'est non, je ne veux pas rester dans ce monde merveilleux où tout est magnifique, tout est beau, tout a l'air super et différent. Non, moi je veux retourner à la maison, c'est ce que fait Dorothy dans Le Magicien d'Oz, ce qui est assez drôle parce que sa maison, c'est donc on est en pleine dépression, au fin fond du Kansas, sur une ferme misérable, ses parents sont morts, etc. Mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est tout de suite retourner à la réalité. Et moi, quand j'étais enfant, évidemment, j'aurais voulu faire exactement le contraire. Si on m'avait parachuté dans un monde magique, j'y serais allée en courant. Donc j'avais envie justement de créer un personnage qui soit comme ça vraiment enclin à partir à l'aventure sans hésitation. Parce que justement on voit souvent dans beaucoup d'ouvrages justement. Et donc, l'idée, c'était que ces mondes-là magiques, en fait, ce sont des métaphores pour ce que représente l'âge adulte, avec justement les notions de politique, d'argent, de sexualité, etc., et de tous les enjeux, les jeux de pouvoir. Et justement, dans les romans traditionnels pour enfants, bien, les personnages passent leur temps à éviter justement ce que pourrait leur apprendre. Ils évitent l'âge adulte. Et moi, non, justement, je voulais créer ce personnage de jeune fille qui est prête à justement se jeter corps et âme dans l'âge adulte qui se présente à elle.
Marie-Antoinette, je suis en train de vous surveiller du collège parce que je viens de me rendre compte qu'on était entouré de miroirs. J'ai un peu peur que vous disparaissiez sans nous prévenir parce que c'est une des particularités de vos personnages. C'est que pour passer d'un monde à l'autre, il faut être dans l'angle mort, il faut qu'il y ait deux miroirs qui aient un derrière, et c'est dans cet espace, dans ces reflets particuliers que créent les deux miroirs mis en relation, que l'on traverse pour aller dans le monde, dans l'autre monde, finalement celui de la fille au chaud.
Oui, en fait, c'est exactement ce que je me suis dit en entrant ici. Je me suis dit, waouh, on peut passer dans on peut prendre tous ces angles morts, c'est incroyable. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on passe dans l'autre monde? C'est deux miroirs ou deux vitres, il faut des reflets. En fait, et ça peut être deux battants de fenêtres qui se reflètent l'un dans l'autre. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression, l'angle mort. Moi, quand j'étais petite, on me disait toujours, j'entendais les adultes qui disaient, oh là là, il y a eu un accident, il n'a pas vu l'angle, il était dans l'angle mort, il ne l'a pas vu. Je me dis, qu'est-ce que c'est l'angle mort? C'est un no man's land, un triangle des Bermudes, enfin, monde parallèle, quoi. Enfin, moi, je me disais, je me demandais ce que c'était. Et quand je m'amusais à chercher, à faire bouger les fenêtres, à faire bouger les. Et en plus, j'avais la chance que ma mère était obsédée par les miroirs, elle en avait mis partout dans l'appart pour agrandir l'espace. C'est aussi une autre façon, agrandir l'espace, avoir un autre monde, enfin bref. Et donc, moi, je passais mon temps à jouer avec et avoir les reflets de reflets de reflets de reflets, et à quel moment on disparaissait, à quel moment on réapparaissait. Et voilà, je pense que c'est né de là. Et effectivement, c'est absolument magnifique. Cette disposition est idéale pour basculer dans l'autre monde.
Votre personnage principal, vous l'avez baptisé, le pauvre garçon, vous l'avez baptisé Pythagore. Déjà, vous le traitez quand même pas super bien, excusez-moi de vous le dire, mais.
En fait,
on sent que ça n'est pas dans la vie quand même.
Bah, exact. Alors, c'est marrant que vous disiez ça parce que une version du livre s'ouvrait sur une lettre de Pythagore à son père qui disait franchement, papa, tu n'as pas voulu. Juste cette phrase quel genre de parents nomment leurs enfants Pythagore? Vraiment, vous ne vouliez me donner aucune chance dans la vie.
Ça laisse encore, j'aurais compris.
Ouais. Non, et en fait, j'ai supprimé ce passage parce qu'il ne résonnait pas du tout en moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, pour avoir porté un nom difficile, alors peut-être pas aussi compliqué que Pythagore, mais personne ne comprend jamais mon prénom. On me demande toujours de répéter, on me demande si c'est vraiment mon prénom, on croit que je m'appelle Marie-Laure, Na, que Na c'est mon nom de famille, on me demande si, enfin bref, si je l'ai inventé. Et en fait, on vit avec un prénom bizarre, c'est vrai que ça nous forge, pas un destin, mais je veux dire, au lycée, c'est pas comme le sortir avec un nom tout simple, on nous pose des questions dessus. J'avais envie que le personnage soit un petit peu, qui partage ce point de vie, mais surtout j'avais envie qu'on en fasse pas, que ça soit pas un gros problème. En plus, dans le livre, finalement, personne dit jamais « tu t'appelles Pythagore, trop bizarre ».
Son problème, il est ailleurs.
Son problème,
c'est... Tu t'appelles Pythagore et que ça met à sa prof de maths.
Oui.
Comment ça te fait beaucoup?
Non, c'est vrai que ses parents sont scientifiques, puisque son père est chercheur en physique quantique, et sa mère est sa prof de maths. Et justement, au début du roman, c'est la rentrée de seconde, comme tous les lycéens normaux, il va rentrer en seconde, et c'est la première année où sa mère est sa prof. Il savait qu'elle était prof en 6e, 5e, 4e, il la voyait être prof en seconde, mais là c'est la première année où c'est sa prof. C'est plutôt ça le problème, c'est pas qu'il s'appelle Pythagore, parce qu'il le vit plutôt bien en fait.
Bien. Alors là on va redevenir un petit peu plus sérieux parce que c'est presque la guerre, en tout cas l'ennemi est aux portes de la cité, c'est le début de Sénéchal. On vient réveiller justement ce personnage de Sénéchal qui est le deuxième personnage le plus important du royaume, et en pleine nuit on vient lui annoncer que la ville est assiégée, que l'ennemi est là et que l'assaut ne devrait plus tarder, ce qui fait qu'on est déjà dans le vif du sujet d'entrée, on est déjà bien placé. On est dans les romans atypiques. Alors une des particularités de ce roman, ce qui est assez rare en fantasy, c'est moins rare dans les autres genres qui sont présents autour de la table, et je pense en particulier au roman de Sébastien, où justement lui, on n'est pas surpris forcément de trouver le roman à la première personne du singulier. Mais dans un roman de fantasy, c'est assez rare quand même d'avoir un roman à la première personne.
Alors, je ne me suis pas vraiment posé la question, est-ce que c'était rare ou pas. J'avais surtout envie, en tant qu'auteur amateur, on va dire, c'était de contrôler absolument mon personnage. Et j'avais remarqué, en faisant beaucoup de textes comme c'est classique en fantasy, des points de vue multiples, narration à la troisième personne, j'avais remarqué qu'en faisant ce genre de procédé-là, j'allais beaucoup trop loin, je m'éparpillais. Et du coup, je voulais vraiment me concentrer sur le personnage, et je me suis dit, il n'y a rien de mieux pour se concentrer sur le personnage que d'utiliser la première personne. Ce qui me permet aussi, du coup, d'aller très loin dans l'introspection du personnage. Et ce qui me permet aussi d'avoir une vision très, très, très fermée en fait, de l'intrigue. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un narrateur omniscient, et du coup on ne sait pas si ce que pense le sénéchal, si ce qu'il dit, si ce qu'il fait est totalement exact, est faux, ou alors est-ce qu'il a rien compris à rien, est-ce que voilà.
En fait, il y a un jeu avec le lecteur du coup qui s'instaure, puisque forcément nous n'avons que le point de vue de ce personnage, donc effectivement on ne sait pas, peut-être nous embobine-t-il allègrement.
Alors parfois je m'amuse bien avec ça, ouais. Je dois dire que j'aime bien, par exemple, j'aime bien faire disparaître un personnage, du coup le Philippe Gardeval, le personnage principal, ne sait pas où il a disparu, et puis il revient pop à la fin du roman, mais tiens, en fait j'étais là, mais lui il n'en sait rien du tout, alors il a fait des plans sur la comète, il est mort égorgé dans une rue, voilà, c'est plutôt intéressant. Je m'amuse, mais je suis assez sadique en fait, en tant qu'auteur.
Avec un personnage qui en plus est un politique, au sens noble par moment, au sens parfois un peu moins noble, parce que ça tire les ficelles en coulisses, ça manigance quand même beaucoup dans ce royaume.
Oui, alors on m'a demandé pourquoi aussi j'avais pas fait un roman qui était à plus grande échelle géographique. On m'a dit, vu que tu veux faire un roman politique, pourquoi tu mets pas 36 royaumes, 36 rois, et ils se décapitent tous, il y a une armée, quand est-ce qu'ils débarquent quand même. Et ce que je voulais, c'était.
Déjà, tu voulais s'asseoir sur un trône, je sais pas.
Non, et du coup, ce que je voulais, c'était plutôt faire de. Pas vraiment une intrigue politique, mais une intrigue politicienne. Et c'est là où c'est assez différent. C'est que je voulais vraiment m'intéresser à la psychologie des personnages, à des personnages politiques, leurs ambitions. Et du coup, c'était plus parlant de faire un huis clos, d'être vraiment sur un roman très fermé à la première personne. Et voilà.
Sébastien Malalot, on est pour le bâton de scène. Dans un endroit particulier, est-ce que vous pouvez nous présenter d'ailleurs cette île parce que vous vous excusez en début de roman auprès des habitants de ce que vous faites sur cette île, de ce que vous faites faire à vos personnages. Qu'est-ce que c'est l'île de Sandham?
Alors en fait, l'île de Sandham, elle est située à une cinquantaine de kilomètres de Stockholm. Alors, c'est un peu compliqué pour les lecteurs. En fait, c'est la géographie n'est pas facile. Et la mer qui se mélange, ça fait beaucoup d'îles. Donc on accède uniquement au bateau. Donc on a soit son bateau personnel pour y aller. Et là, c'est assez rapide. En une quarantaine de minutes, on arrive à rejoindre la capitale de l'île. Soit on doit prendre une navette qui, du coup, met à peu près 3 heures. Donc voilà. C'est une île qui. Qui influe sur l'île, mais qui commence à faire froid. Il y a uniquement les habitants de l'année qui restent, et là, ça représente vraiment un faible pourcentage de la population. Donc, il y a énormément en fait, de maisons, mais ce sont souvent des maisons secondaires. Il y a vraiment très peu de gens qui habitent à l'année. Et en fait, sur cette île, il n'y a pas de vraie bibliothèque. Et moi, j'avais besoin d'avoir une vraie bibliothèque sur place, donc du coup, j'en ai créé une. J'ai encore de la bifée que ça. Vous allez mettre un bordel sur cette île. Et en fait, le centre-ville, réellement, est beaucoup plus petit. Et j'avais besoin qu'il soit un peu plus étendu, il y a un peu plus de choses de circulation. En fait, il n'y a pas vraiment de circulation en voiture sur l'île. On circule beaucoup en vélo, mais pas vraiment en voiture.
Alors, vos deux passages principaux, bah justement, ils sont bibliothécaires. En tout cas, ils ont un lien avec la bibliothèque. La bibliothécaire, et puis il y a son meilleur ami, il s'appelle Eric. Alors, avant qu'on dise, soyons clairs, avant qu'on explique qui il est, qui va découvrir ce qu'il est, qui est-il au départ?
Alors, Eric, c'est un personnage qui a eu une enfance assez difficile. Puisque ses parents sont divorcés, il a perdu sa mère, dans un accident de voiture. Et en fait, la sœur de sa mère sort avec un type qui est un tyran et en fait qui passe son temps à le tyranniser. Donc, lorsqu'il était petit, il a un chien et en fait, ce charmant oncle a empoisonné son chien, il a laissé mourir sous les yeux d'Eric. Et il va comprendre que c'est lui qui l'a tué. Il va aussi le frapper physiquement. Et en fait, son oncle a vraiment une aversion pour Eric. Et donc, ce qui fait que Eric grandit en se sentant inférieur à lui, puisque on lui a répété pendant toute son enfance qu'il était nul, qu'il ne savait rien et qu'il n'allait pas être sur terre. Forcément. Un gros manque de confiance en soi.
Et puis, suite à la prochaine intervention, le suspense, c'est un peu teasing dans cette table ronde, ça ne fera pas de mal. On va expliquer ça tout à l'heure. Retournons au Frédéric pour l'instant, avec Catherine Ballet. Vos romans sont édités en jeunesse.
conseilleriez d'abord de les lire à partir de quel âge? Et le corollaire, c'est vous conseilleriez de les lire jusqu'à quel âge?
I mean, I do write for adults as well. The Fairyland series is for younger readers, but I write for all ages, and almost all of my other novels are for adults. Technically, it's middle grade, which is supposed to be 10 to 14 years old, but it was always meant to be something like The Wizard of Oz or Narnia that anybody could enjoy no matter what age they were. I mean, I know a 5-year-old who likes to listen to the audiobook, and I know an 85-year-old who loves it. I really wanted to write a book where if parents read it out loud to their kids, they would also be enjoying the book at the same time instead of hating to have to read something that was insipid. So it's very much meant to cross over into adult readers.
Oui, il faut quand même rappeler que j'écris aussi énormément des livres pour adultes. Alors c'est vrai que oui, l'histoire de le cycle féerie, oui, s'adresse à un public jeunesse. Mais j'ai aussi fait en sorte qu'il puisse être apprécié par à peu près de tous les âges. Bon, alors il y a quand même, oui, c'est vrai, une recommandation, c'est plutôt pour, je dirais, les collégiens, quoi, enfin, fin de primaire, collège, quoi, de 10 à 14 ans. Mais j'avais un peu en tête, justement, ces titres comme Le Magicien d'Oz ou Narnia, qui sont donc destinés à un public jeunesse, mais qui peuvent plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, je connais un lecteur de 5 ans, enfin, qui a écouté l'audio livre, qui a adoré, et puis aussi, de la même manière, un lecteur de 85 ans, qui, pareil, a apprécié. Et j'avais aussi envie que cette série puisse être appréciée, par exemple, par des parents qui l'auraient lu à haute voix à leurs enfants, qui se seraient esclaffés, qui auraient vibré en même temps que... Donc c'est ça, c'est un petit peu... l'idée, c'est un peu de transgresser les genres, d'hybrider les genres.
So it's full of references and jokes that may or may not fly over the heads of a small reader, but are meant to be fun and nonsensical if you don't understand the reference. But sometimes kids do get it. I was speaking to a class of seventh graders, which is about 12 and 13 years old, and a boy raised his hand and said, "Do you like The Seventh Seal?" And I said, do you mean the movie? And he said, "Yeah, the Ingmar Bergman movie, the black and white movie." I said, "Yes, I do. Why do you ask?" And he said, "Well, death plays chess in your book, and death plays chess in that movie, so I thought you might like that movie." And I was like, "You are the only one who has ever pointed out that I was making an Ingmar Bergman reference." I mean, people underestimate children all the time and what they'll understand, and for every joke and reference you get, there will be somebody, adult or child, who gets it. But I hope that a kid could read it and enjoy it for it being an adventure when they were a kid, and then when they grow up, if they read it again, they'll get all of the more adult jokes.
Oui, alors c'est vrai que la série est truffée de références et de blagues qui, oui, vont peut-être un petit peu passer au-dessus, qui ne seront pas accessibles aux lecteurs les plus jeunes, parce qu'ils vont peut-être, eux, seulement voir le côté un petit peu absurde, loufoque des choses, mais bon, ils pourront toujours apprécier, même sans ces références. Et parfois, il arrive justement que les plus jeunes comprennent certaines blagues un petit peu subtiles, et donc je vais vous raconter une anecdote assez savoureuse. Un jour, donc, j'étais justement en train de faire la promo de cette série, et puis il y a un très très jeune lecteur qui est venu me demander « Est-ce que vous aimez The Seven Seals ?»
Le septième saut.
Ah, voilà. Est-ce que vous aimez le septième saut ? J'étais un petit peu surprise, je lui dis le septième saut, et là il me dit oui, le film d'Ingmar Bergman. Et puis là je lui dis oui, je l'ai beaucoup aimé, mais bon, j'étais surprise. Et là il me dit il m'explique que parce que la mort joue aux échecs dans ce film, et c'est la même chose dans votre livre. Et donc là j'étais vraiment petit peu éberluée et je lui ai dit ouais, c'est super, tu es la première personne et la seule à me poser cette question et à avoir trouvé cette référence. Et voilà, donc ça montre, et j'ai l'impression que souvent le monde des adultes a tendance à sous-estimer les enfants. Et je pense donc que les lecteurs les plus jeunes peuvent commencer par découvrir la série et y voir voilà, des romans avec beaucoup d'aventures, de fantaisie, etc. Et que peut-être plus tard, s'ils les rouvrent, dans quelques années, bien là, ils comprendront les références et les blagues.
En tout cas, vous avez aussi un lecteur de 43 ans qui s'est beaucoup amusé à vous lire. Marie-Laure Navacostin, il y a pas mal de points communs finalement avec les aventures que nous raconte Catherine Valente, parce que évidemment ce jeu sur les mondes différents et parallèles, il y a un peu plus d'aller-retour chez vous que chez Catherine, où vraiment le cœur du livre se passe dans l'autre monde. Il y a une particularité aussi, c'est que c'est dans cet autre monde que Pitana va commencer à prendre confiance en lui, à s'accomplir, à grandir finalement.
Oui. C'est vrai, en fait, en écoutant Catherine, je me disais la même chose, qu'il y avait des similitudes, d'abord parce que Pythagore ne cherche pas à fuir à tout prix ce monde. Au contraire, déjà, il va tomber amoureux dans ce monde. Ensuite, on va lui présenter des défis auxquels il n'aura jamais été confronté. Et quand vous dites qu'il va grandir, c'est vrai qu'il va sortir de lui. C'est-à-dire que Pythagore, c'est un lycéen normal, ni super cool, ni martyrisé, un lycéen normal qui vit sa vie tranquille. Et il n'est jamais sorti de lui. Il regarde beaucoup, il dessine, il a des potes, ok, il va faire le sport, il a un truc de sport tous les lundis. Enfin, il n'a pas montré de quoi il était capable.
Pas n'importe quel sport,
que ce soit à la perche. C'est vrai. Et ça va d'ailleurs beaucoup lui servir à un moment donné dans l'autre monde. Mais voilà, il n'a pas eu l'occasion de sortir de lui. À un moment donné, il fait le DJ pour la fête du lycée, des petits trucs comme ça, mais pas d'héroïsme. Et justement, l'adolescence, c'est un âge où on rêve d'héroïsme, on rêve d'épopée. Et on espère qu'il va se passer quelque chose de merveilleux. Et finalement, on est enfermé dans une vie. Le réveil sonne, on va au lycée, la cloche sonne, on change de cours, l'emploi du temps, on va manger, on revient. Et on est plein de mini-épopées. En fait, on traverse un couloir, on voit la fille qui nous plaît, et on brûle de quelque chose, mais on le garde en soi. On ne sait pas trop comment le partager, on rêve d'un coup de fil, on rêve d'être enflammé tout à coup. Et ben, moi, j'étais comme ça en tout cas. Et c'est ce que Pythagore, tout à coup, en basculant dans l'autre monde, va découvrir.
Mais il devient surtout un proche chevalier, d'une certaine manière, parce que ce qu'on s'inquiète, c'est d'aller récupérer sa meilleure amie qui a disparu.
Oui, alors, c'est vrai que ce qui se passe, donc, ce sont deux lycéens qui rentrent en seconde. Il y a une nouvelle élève, Foresta Erivan, qui bouscule tout et qui vient chercher Pythagore un soir et lui dit « Écoute, Louise, ta meilleure amie, a disparu. Viens, on va la chercher. » Déjà, il est super content parce qu'elle est super belle, il est troublé, etc. Il n'a aucune idée qu'il bascule dans un autre monde. Et surtout, il va découvrir que Louise vit de grands dangers. Elle était enfouie dans un endroit dangereux, enfin, je ne peux pas tout raconter. Et effectivement, l'enjeu du livre, c'est de récupérer Louise. Et un proche chevalier, je ne sais pas si c'est de la chevalier, c'est de l'urgence, c'est de la survie, c'est aller la chercher parce qu'elle est dans un endroit où elle risque de se faire égorger.
On va dire effectivement sur la prochaine intervention de cet aspect-là, parce que c'est aussi une des choses qui sous-tend le livre avec une référence très forte. Double référence, on va dire même. L'autre particularité, vous en avez déjà dit un tout petit mot tout à l'heure, mais on va un petit peu creuser la question. L'autre particularité, c'est quand on parle de fantaisie, on a tendance tout de suite à imaginer des grandes quêtes, des grands voyages, des grandes situations sur des grandes étendues. Là, non, on est en huis clos. Et on n'est pas sur un voyage interminable qui prend, on ne sait pas combien de saisons de série, peut-être celle qu'on évoquait tout à l'heure, mais on est sur 3 jours.
Alors, je pense que le principe du roman sur les quêtes, c'est le roman, enfin le personnage d'une quête ne se connaît pas et en partant dans cette quête, il apprend à se connaître. Là, on arrive dans le roman, le sénéchal, le personnage principal, se connaît déjà de A à Z et même un peu trop parce qu'il est vraiment, il est cabossé par la vie, il a beaucoup de casseroles à tirer derrière lui. Donc, je pense que c'est j'ai voulu partir de ce postulat-là, oui.
Et donc, forcément, ça donne quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut lire habituellement. Ça donne aussi une impression, presque d'un côté un peu, pour rester dans les analogies avec les séries télé, un petit côté 24 heures chrono, d'une certaine manière.
Oui, oui, parce que du coup, tout est... le roman se passe sur le premier tome sur 3 jours, et chaque chapitre correspond à une heure canoniale, enfin, c'est les heures médiévales, quoi, on va dire, divisées selon la mode médiévale. Et du coup, chaque scène a une âme, et c'est pour toujours intensifier cette impression de huis clos. On a le huis clos et de la capitale, on est entre les murs, on est dans le crâne du personnage, et on est aussi ce temps qui va très vite, et les heures passent, quoi. Et à chaque fois que la cloche sonne dans la ville, on sait que on doit se préparer à l'attaque, et on l'a pas fait, c'est le passage.
Et pourtant, il y a quand même des passages épiques, il y a quand même de l'action dans ces périodes-là, il se passe plein de choses. Il y a du danger, il y a des ennemis, parce qu'au fur et à mesure, on comprend bien qu'ils ne sont probablement pas seulement aux portes de la ville, mais qu'ils ont déjà leurs entrées dans cette ville. Sous quelle forme, ça reste encore à comprendre et à définir.
Il faudra lire, évidemment.
Voilà. Mais donc, voilà, on est quand même dans quelque chose qui, mine de rien, bouge.
Oui, oui, ça bouge. C'est pas fixe. Enfin, c'est fixe au niveau de l'espace. Évidemment, on reste toujours dans la ville. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et ça évolue. J'ai voulu vraiment les 3 tomes. Chaque tome correspond aux mises en place du siège, quoi. On a avant le siège, pendant le siège et peut-être après le siège, quoi. Je vous en dirai qu'un plus, mais voilà. Et du coup, on évolue en fonction de ça, une espèce de gradation dans l'atmosphère, dans l'action. Et d'ailleurs, les scènes d'action dont on parle, il n'y a encore aucun assaut et l'armée ne se jette pas sur les remparts, quoi. Donc, il y a un moyen de d'écrire des scènes d'action sans aller tout de suite dans le texte.
Sébastien Bernadotte, venons-en quand même à ce personnage d'Éric. On a bien fait monter la sauce. On l'a dit, c'est un personnage qui est un peu perdu, qui visiblement a eu une jeunesse difficile, donc forcément, lui, par exemple, au contraire de ce qu'il a dit, il est plutôt en train de se chercher. Et puis, un secret lui est révélé, et il découvre d'un seul coup qu'il est un Volvo.
Oui, c'est ça. En fait, non, ce n'est pas son transformeur, ce n'est pas son voiture. C'est une sorte de sorcier qui existait en Europe du Nord, et particulièrement en Scandinavie. En fait, ce sont des sorciers qui étaient rangés en fait, 3 castes. Il y avait ceux qui pouvaient lancer des sorts, donc les envoûteurs, et c'est de là que vient un cèdre, donc c'est un bâton qui sert à envoûter. Il y avait ceux qui étaient capables de prédire l'avenir, donc ils étaient reliés aux normes. Et il y avait une troisième catégorie qui était un peu comme un chaman qui était capable de guérir. Donc la particularité d'Éric, c'est que en fait il sait juste c'est un sorcier, il ne sait rien puisque son père, lorsqu'il lui apprend, meurt pendant la nuit. En fait, il lui annonce ça avant d'aller se coucher et la nuit, ouf, il meurt. Donc le petit matin, Éric se réveille avec plein de questions et personne ne pourrait y répondre. Donc comme il est seul et qu'il s'est réfugié dans les livres, en fait premier instinct, c'est d'aller à la librairie, enfin à la bibliothèque, pour aller chercher des informations. Malheureusement pour lui, il voulait, puisque le monde des surnaturels et le monde des humains est séparé. En fait, les surnaturels ne veulent pas que les humains connaissent leur violence. Donc, en fait, il ne peut pas avoir accès à ce monde de premier abord.
Et la révélation de ce secret, c'est surtout le début des gros ennuis pour Éric.
Voilà, puisque en fait, son secret est révélé, et en fait, avec la mort de son père, le charme qui faisait que Éric apparaissait comme étant un humain,
naturel. On touche une aura, donc tout le monde brille d'une aura. Et du coup, Eric va commencer à percevoir les auras en lui disant qu'est-ce que c'est que ces lumières autour des gens, c'est un peu étrange. Et en fait, il va aussi apprendre à contrôler la sienne, parce qu'il ne se rend pas compte que lui-même dégage une aura et que les autres surnaturels voient cette aura. Et puisqu'il ne se protège pas, en fait, elle apparaît comme étant éclatante. Et en fait, il y a un système de couleurs qui permet de savoir en fait les émotions et aussi le pouvoir de chacun. Et forcément, celle d'Eric est particulièrement fort. Et en fait, il va attirer sur lui le danger.
Il va devenir une proie.
Voilà.
Quatrième avantage, parmi les archétypes que vous brisez dans Féerie, il y a le caractère de Septembre. Parce qu'on a, dans toutes les références que vous avez évoquées, on croise souvent des petites filles ou des petits garçons, et ce sont des petites filles et des petits garçons assez sages, assez doux, assez tranquilles. Septembre, c'est une chipie.
I think one of the key aspects of September is that she has read a lot of fairy tales and folk tales, and so she feels like she knows how the story she's in is supposed to go. So it's kind of a metafictional series of pratfalls where she thinks that she understands, because she's read all of these books, how everything should behave, and then of course it doesn't really behave that way. I think. And she, I mean, I wouldn't necessarily call her a naughty girl, but she is certainly rebellious. She is certainly unhappy in her life. And she is more proactive about leaving our world than a lot of... she doesn't stumble into it. She very much chooses to go.
Oui, alors, oui, là, des aspects clés pour comprendre le personnage de Septembre, c'est qu'il faut savoir qu'elle a lu, malgré son jeune âge, beaucoup de contes, justement, de fantasy ou de contes folkloriques. Et donc, elle a l'impression qu'elle connaît les ressorts et qu'elle a, justement, les clés pour savoir comment les choses sont censées évoluer et vers où elles sont censées aller. Je pourrais dire qu'il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de la métafiction ici. C'est-à-dire que comme elle a lu des histoires sur l'histoire qu'elle est en train de vivre, eh bien, elle a l'impression qu'elle sait comment les gens devraient se comporter, comment les choses devraient tourner, la tournure que devraient prendre les choses. Mais en fait, évidemment, rien ne se passe comme elle voudrait ou pense que ça devrait se passer. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu, oui, une chipiche. Enfin, je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais en tout cas, je dirais qu'elle est, oui, elle est rebelle. Et puis, elle est surtout, elle n'est pas satisfaite du monde réel dans lequel elle vit. Et donc, contrairement à des personnages dans d'autres œuvres auxquelles nous avons fait référence, qui se retrouvent projetés malgré eux dans les mondes parallèles, bah elle est vraiment proactive pour justement passer dans cet autre monde.
And so as far as going against archetypes, you know, her sort of love interest Saturday is much more like female love interests in these stories tend to be. He's quiet and gentle, and he's afraid to talk too much. He's been through a lot, and he keeps his heart very safe, so he is the sort of gentle character, where September is the sort of more aggressive character. I mean, one of the things, the running themes in the book is that all children are heartless. That's why they run and jump so high, and that's why they say shocking things at dinner, and that's why you can never really control them. And it's the five books of the slow growth of September's heart as she goes on.
Oui, alors pour revenir aux archétypes, eh bien, je pourrais parler de Saturday, qui est donc un petit peu l'amoureux secret de September, samedi. Ce qui est rigolo, c'est que c'est donc un garçon, mais en fait, il a plus des caractéristiques féminines. Il est assez, calme, il ne parle pas beaucoup, il est doux, il a un peu peur de s'exprimer parce que bon, il a vécu beaucoup de choses assez difficiles. Donc lui, il représente un peu la douceur, qui est bon, traditionnellement plus associée petite fille. Et alors que Septembre, elle, voilà, c'est plutôt le personnage agressif. Et puis, le thème vraiment, le fil rouge de l'ouvrage, c'est aussi l'idée que tous les enfants sont cruels, qu'ils n'ont pas de cœur. C'est pour ça que, voilà, qu'ils sont aussi intrépides, qu'ils se permettent de sauter si haut, voilà, qu'ils parlent très très fort en repas de famille, etc.
Biggest one is the villain, who is, I think, one of the best characters that I've created. And I can't really talk too much about it because it would spoil it, and it's a huge part of the book. But her story and how she came to power and who she is and how she sees the world is something that is really shot in the heart to Narnia and some of the other series that I loved as a child, but always had huge problems with. I thought that the Lion, the Witch, and the Wardrobe was a horror story. It was so frightening to me that those children had to go back in the end after being 50-year-old kings and queens and be children during the Blitz. That I was convinced that this was the scariest story ever told because they were forced to just live in these children's bodies again. And so the whole narrative arc of the villain is really one of my biggest archetype explosions.
Je trouve que justement, là où j'ai le plus fait voler en éclats les archétypes, je crois que c'est avec le personnage de la méchante. Je suis très contente de ce personnage que j'ai créé. Bon, je ne vais pas trop en révéler sur sa nature parce que je ne voudrais pas justement spoiler les choses. Donc son histoire, justement, comment elle est arrivée au pouvoir, qui elle est, sa vision du monde, etc., tout ce qui a trait à son personnage, c'est vraiment un gros coup de poignard à ses romans classiques ou ses séries classiques comme Narnia, etc., que moi j'adorais hein, quand j'étais enfant. Voilà. Et ensuite, alors, Which One with the Wardrobe? Dans le premier tome de Narnia, c'est donc le lion et la sorcière dans le placard, c'est ça, Rubens. Lion, la sorcière et le placard. Et le placard, ok, merci beaucoup. Merci. Eh bien, moi j'ai été complètement horrifiée justement par ce que subissent les enfants. Donc alors, ils partent dans ce monde où ils deviennent roi et reine pendant je ne sais pas quoi, 15 ans, c'est ça, non? Et puis ensuite, ils doivent revenir dans le monde normal pour revenir à justement voilà, la platitude de leur existence d'enfants. Et justement, moi j'avais envie de, voilà, un petit peu donner un coup de pied dans la fourmilière. Et donc justement, tout cet arc narratif sur le personnage de la méchante, je trouve que c'est le point avec lequel j'ai le plus fait voler en éclats les archétypes.
Marie, on a la conscience, on comprend aussi d'un méchant, parce que, enfin, un méchant, un personnage particulier qui est très présent dans ce premier tome du projet Starpoint, c'est Barbe Bleue. Et à travers lui, son pendant, puisque c'est un peu ça aussi aujourd'hui, et qui se voit encore voir, c'est Gilles de Rais.
Oui, alors en fait, il n'y a pas. C'est pas que Barbe Bleue est dans le livre, mais que le méchant, on va dire qu'un des personnages du livre finit par faire vraiment penser à lui. Ce qui est troublant parce qu'en parallèle, dans le monde réel, un des personnages est un descendant de Barbe Bleue et fait des études pour savoir comment est-ce que Gilles de Rais était un héros. Gilles de Rais est celui qui a inspiré Barbe Bleue. Enfin, on lit souvent la figure historique qui a vraiment existé, Gilles de Rais, à celle de Barbe Bleue.
Et au départ, un compagnon de Jeanne d'Arc.
Et voilà, qui au départ était très positif. Qui au départ.
Exécuté pour sorcellerie.
Exactement. C'est un héros et il est devenu le premier tueur en série de l'histoire. Donc son descendant se dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc il enquête sur ce basculement moral et il va tourner autour des questions de. Il ne va jamais rentrer dans l'intrigue de Pythagore, mais tourner autour. Donc on sait que ce n'est pas résolu à ce tome-là, mais peut-être dans les autres. Mais en revanche, c'est très lié, c'est-à-dire qu'il y a le méchant de l'autre monde qui ressemble étrangement à ce Barbe Bleue et Gilles de Rais. Donc,
vous jouez justement entre le conte autour de Barbe Bleue, puisqu'il y a même une scène qui est l'équivalence finalement entre personnage historique et personnage de conte.
Alors c'est vraiment des fils qui s'entremêlent. Chaque intrigue en son sein est réglée à la fin du livre, mais pourquoi ça s'entremêle, c'est laissé en suspens. Et ça, je pense qu'on le comprendra vraiment à la fin de la trilogie, parce que c'est un des fondements principaux de l'arc narratif. Voilà. Mais ce qui était important, c'était de comprendre qu'il y avait en filigrane des choses qui basculaient d'un monde à l'autre, qui étaient vraiment entremêlées. Et à un moment donné, il y a cette expression qui est issue de la physique quantique, les mondes entremêlés, et bien ça s'entremêle à tous les niveaux. Qu'on passe d'un angle mort à l'autre, enfin qu'on passe d'un monde à l'autre par l'angle mort, qu'on soit dans les toilettes du lycée grâce à une vitre, on bascule dans l'autre monde, et bien ça se retrouve à tous les niveaux, et même dans l'imaginaire.
C'est pour quand le tome 2 ?
Mars 2018. Parce qu'il vient juste de sortir. Le premier tome est sorti en mars 2017.
Ok, d'accord, ça va être long. Quelqu'un a la même question. Je crois que le tome 2 est prévu pour un peu plus tôt, si tout va bien. Grégory, justement, sur Sénéchal, là encore, dans les particularités qu'on peut avoir, on a un personnage, on l'a dit, très ambigu, donc qu'on a du mal à situer finalement. Il ne correspond pas au critère simple du bon ou du méchant. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Le personnage de Sénéchal, oui, en fait, je ne suis pas parti du principe qu'il était bon ou qu'il était mauvais. J'ai voulu le faire avec des traits de caractère. Déjà, je connaissais la fin de la trilogie, donc ça a conditionné tout le caractère du personnage, en fait. Donc, je voulais ni de bon ni de mauvais. Pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste des divergences d'opinion. Voilà.
Mais en fait, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est que dans la fantasy, où on a toujours l'habitude d'avoir un personnage, soit qui est, on en parlait ce matin, soit qui est en prise avec le destin, ou au contraire, en essayant de l'accomplir, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'efface complètement derrière sa charge. C'est pas pour rien que le roman s'appelle Sénéchal, d'ailleurs. C'est parce que finalement, on aurait presque à oublier son véritable nom. Que ça fonctionne.
Et oui, d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans les premières critiques qui sont tombées sur Sénéchal, les blogueurs avaient tendance à appeler le personnage Sénéchal comme si c'était son nom, et alors qu'il s'appelle Philippe Gardeval. Mais c'est vrai que même le personnage dans le roman l'appelle tout le temps Sénéchal, et c'est vraiment une fonction qu'il endosse complètement.
Je regarde juste là. Sébastien, on l'a dit, donc il y a cette révélation qui va bouleverser la vie. Ça pourrait s'arrêter là, qui bouleverse simplement la vie et que Eric se retrouve en prise avec cette situation. Mais ça va aller beaucoup plus loin, ça, c'est son monde entier qui va imploser. Tout ce qu'il pensait être son monde va d'un seul coup apparaître sous un jour différent.
Alors oui, ça fonctionne, oui. Alors oui, puisque comme il découvre qu'il finalement il n'est plus humain, il a besoin de savoir qui il est, qui sont ces autres personnes qui finalement sont là. Et il va devoir apprendre très très vite, et c'est l'instinct de survie qui va s'enclencher, puisqu'il a besoin de dire ok, bon alors les humains, on les laisse tomber, puis finalement ils savent pas qu'on existe, donc ils vont pas vouloir nous attaquer. Mais alors du coup la fille que je rencontre dans la rue et sur qui je renverse du café, en fait finalement elle est pas humaine et elle veut essayer de me tuer, donc si jamais il y a d'autres personnes qui sont dans ce genre de situation, enfin j'ai besoin d'essayer de savoir qui ils sont et de pouvoir survivre. Donc heureusement pour lui, il va rencontrer Thomas, qui va être son mentor et un peu plus. Et finalement, il est un peu content qu'il soit là, même si Thomas lui dit « Mais tu ne devrais pas me faire confiance, je suis dangereux, attention, ne fais pas confiance à tout le monde. » Donc c'est vrai qu'il se dit « Bon, bah, ok, je ne peux pas faire confiance, enfin, je peux avoir confiance en personne. » Mais finalement, lui, c'est la seule personne qui éventuellement peut m'aider. Donc bon, finalement, je vais lui faire confiance. Je vais essayer de faire confiance à mon instinct, parce que moi, mon instinct me dit « Écoute, ce type, il a l'air d'être à peu près sympa, donc écoute-le. » Et pourtant, il faudrait le mettre toujours en garde en disant « Attention, je suis peut-être pas sympa. » Mais finalement, bon,
finalement Thomas est un peu plus sympa qu'il ne le laisse entendre. Et effectivement, le monde d'Eric est totalement chamboulé puisqu'il découvre aussi que sa meilleure amie finalement, elle lui avait caché un secret, c'est qu'elle n'est pas humaine non plus.
Voilà la rencontre de l'urban fantasy et du thriller, on va dire ça comme ça, parce que du coup ça va quand même assez vite, il se passe plein de choses. Avec Sébastien, voilà, on avait envie de vous faire découvrir quelques nouveaux visages, quelques nouvelles plumes, en tout cas quelques personnes qui nous rejoignent dans la grande famille des Imaginales à travers aussi leurs histoires un peu particulières, un peu différentes aussi de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Merci à tous les quatre, merci à Morgane pour la traduction. Et puis, vous pouvez évidemment aller continuer la discussion sous la bulle du livre, faire encore quelques dédicaces, même si on va attendre un petit peu de temps, enfin, on va essayer de grappiller un petit peu de temps. Et puis moi, je vais vous abandonner.